Voilà, bonsoir à tous. Nous allons donc aborder ce sujet qui a été exposé. Et pour l'introduire, je voudrais que nous lisions deux textes dans le Nouveau Testament, justement, dans l'Évangile de Luc, tous les deux, au chapitre 24, tout d'abord au verset 27. Verset 25, on peut commencer à partir du verset 25. « Alors Jésus leur dit, c'est aux disciples d'Emmaüs, « hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire et à comprendre tout ce que ont dit les prophètes. Le Messie ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et puis dans le verset 44 du même chapitre 24, « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes, alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. » Le Messie dans l'Écriture, dans les Écritures, comme le dit ici le texte que nous venons de lire, c'est un sujet qui est évidemment très vaste, et je le traiterai en relation avec les sources juives. La vision qu'ont les rabbins du Messie, et évidemment, elle est tirée automatiquement de l'Écriture et non pas du Nouveau Testament. Et en même temps, ça nous permet d'être enrichis dans notre compréhension de la personne de Jésus, parce qu'il y a des choses que nous ignorons et qui ont été élaborées par les rabbins. Le premier texte que je voudrais prendre, parce qu'évidemment c'est une étude qui demanderait plus longtemps que du temps dont nous disposons, mais je vais faire des sélections dans certains textes que je privilégierai par rapport à d'autres, évidemment sans que cela porte atteinte au reste de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Le premier texte, c'est le récit de la création. Et je voudrais commencer par le premier mot, « au commencement ». Au commencement se dit en hébreu « Bereshit ». Et c'est un mot qui lui-même est un mot composé. Il y a à l'intérieur le mot « roche » qui signifie la tête. Et on pourrait traduire aussi cette expression « par la tête » ou « par une tête ». Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et les rabbins se sont posé la question « par une tête, de quelle tête s'agit-il ? » Dieu a créé le monde, Dieu a créé le ciel et la terre par une tête. Qui était celui qui était la tête? Alors là, il nous faudrait chercher dans l'épître de Paul aux Colossiens, où nous retrouvons cette expression où il est question de Jésus. Jésus qui est la tête. Et Paul nous dit, Paul qui connaissait vraisemblablement cette interprétation, nous dit dans l'épître aux Colossiens que c'est en lui, par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Il est la tête du corps. Et les rabbins nous disent que l'esprit du Messie, le nom du Messie et la personne du Messie existaient avant la fondation du monde et étaient cet élément, plutôt était, c'est par lui, en lui et pour lui que ont été créés tout ce qui existe et notamment ce qui nous est décrit dans ce livre de la Genèse, dans ce premier chapitre du livre de la Genèse. Donc ça, c'est le premier mot, « Bereshit », par une tête, par le Messie, Dieu a créé le ciel et la terre. Ensuite, il nous est dit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. » Création de la lumière, donc, dès le premier jour de la création. Et il y a un problème. C'est que les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, ne sont créées que le quatrième jour. Par conséquent, d'où vient la lumière dont il est question ici dans notre texte? D'autant que il nous est dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Les rabbins se sont interrogés sur ces quatre mots, donc informe, vide, ténèbres et abîme. Alors ça se dit en hébreu « tohu vohu chosher vetehom ». Et donc « tohu » c'est le chaos, « bohu » quelque chose de vide, « chosher » ténèbres et « tehom » abîme. Et les rabbins ont dit ceci, quand on lit par exemple des textes comme Ésaïe 51, comme le psaume 74 ou d'autres textes, il est question de monstres, de deux monstres, un monstre marin et un monstre terrestre, qui représentent les puissances des ténèbres, et que selon ces textes, Dieu a dû vaincre au commencement pour pouvoir établir la création. Il y a le serpent fuyard, qui est un monstre qui est dans la mer, etc. Et par conséquent, il y a des puissances des ténèbres qui s'opposaient à la création au commencement. Et ces puissances des ténèbres, ce sont des puissances que l'on va retrouver dans toute l'histoire humaine subséquente. Et notamment, il y a quatre, comme il y a ici quatre mots qui sont négatifs. Il y a quatre animaux, quatre monstres que le Seigneur a dû vaincre au commencement pour établir sa création. Et ces quatre animaux, ces quatre monstres, ne sont autres que les quatre animaux de Daniel dont il est question dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Un lion, un léopard, un lion, un ours, un léopard et une bête fantastique. Quatre bêtes qui représentent quatre empires. Et ces quatre empires, ils étaient au commencement déjà spirituellement existants, en attendant le temps où ils seraient manifestés sur la terre. Et ces quatre empires, donc, c'est Tohu. Tohu, le chaos, ce qui est sans dessus-dessous, ce qui n'a ni queue ni tête. Et ça, c'est Babylone. Babel en hébreu, ça veut dire justement la même chose. Ce qui est sans dessus-dessous, ce qui n'a ni queue ni tête, ce qui n'a aucun sens. Donc ça, c'est le propre de Babylone. Ensuite, Bohu. Bohu, c'est ce qui est vide. Quelque chose qui a une belle apparence, mais qui est vide à l'intérieur. Et cela représente le royaume de Perse, tel qu'il est décrit, par exemple, dans le livre d'Esther, où il apparaît comme un royaume très élaboré, très riche, très brillant, mais tout est dans l'apparence, tout est extérieur. Si l'on gratte un petit peu en dessous de la surface, il n'y a rien, il n'y a que du vide. Et lorsque Alexandre le Grand arrivera en 322 pour combattre les Perses, en une bataille, les Perses seront complètement anéantis, complètement vaincus, parce qu'ils sont incapables de résister, parce que leur empire est vide. Il n'y a que vacuité à l'intérieur de l'empire. Ça, c'est le deuxième empire. Ensuite, il est question de Chosher. Chosher, les ténèbres. Et les ténèbres représentent la Grèce. Alors, on dira, mais la Grèce, c'est au contraire les lumières. Et les rabbins ont dit ceci au temps de la fin. La Grèce répandra dans le monde entier les ténèbres de ses soi-disant lumières. Et c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. Et puis, il y a le quatrième empire, Théom, qui représente l'empire romain, et qui caractérisait l'abîme, comme le dira le livre de l'Apocalypse, qui monte de l'abîme et qui retourne à l'abîme, qui retourne à la perdition. C'est un empire qui est absurde, qui n'a aucune signification, qui n'a aucun sens, qui n'a d'autre raison que d'exister par sa force, par son pouvoir. C'est la seule chose qui compte. Et par conséquent, nous avons ici affaire à un empire qui est le pire des empires. Quatre empires, donc, qui sont ici au commencement. Et il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. L'eau, c'est quelque chose de négatif dans la Bible. la mer, c'est quelque chose de négatif, n'en déplaise aux Bretons. C'est quelque chose qui représente l'abîme, qui représente la mort, qui représente les puissances infernales. Il y a des monstres marins dans la mer, nous l'avons vu, et par conséquent, c'est quelque chose de tout à fait négatif. L'Esprit de l'Éternel reposait au-dessus des eaux, ça veut dire que c'était la mort. Il y avait la mort qui était là, à cause de ces empires en particulier. Et l'Esprit de l'Éternel était à l'œuvre. Et il nous est dit, littéralement, quand on traduit depuis le texte hébraïque, que l'Esprit de l'Éternel voletait comme une colombe. Et là, il y a une méthode d'exégèse typiquement juive qu'on appelle Xera Shava, c'est-à-dire comparer des textes semblables. Et il est question de colombe ici. Il y a un autre texte où aussi il est question de colombe dans le livre de la Genèse. C'est dans l'histoire de Noé. Et là, nous voyons Noé qui, après que l'arche se soit échouée sur le mont Ararat, envoie le corbeau d'abord, puis ensuite la colombe. La colombe revient à plusieurs reprises bredouille, si j'ose dire. Et puis, il arrive un moment où elle ramène dans son bec un rameau d'olivier. Et l'olivier, c'est un symbole. C'est un grand symbole dans la Bible. C'est tout simplement un arbre spécial qu'on appelle l'arbre de la lumière. Et cela pour deux raisons. D'abord, si vous regardez un olivier, on en a quelques-uns ici en Bretagne, si vous soulevez la feuille de l'olivier, vous allez constater que le dessous de la feuille est argenté. Le but, c'est de se protéger du soleil. Quand le soleil tape dur, l'olivier tourne ses feuilles à l'envers et il chasse, en quelque sorte, la lumière et la chaleur excessive qui pourrait l'incommoder. Et quand on traverse une oliveraie au mois de juillet, en plein midi, quand il fait une chaleur terrible, eh bien, on a l'impression que toute l'oliveraie est en feu, l'arbre de la lumière. Et puis, on l'appelle l'arbre de la lumière pour une deuxième raison, parce qu'à partir de l'huile de l'olive, on allume des lampes. Vous savez, l'histoire des 10 vierges, par exemple, nous retrouvons cette image. Donc, dans le Nouveau Testament, ces jeunes filles qui étaient allées, qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. L'huile, c'est l'huile de l'olivier. Et l'huile de l'olivier, elle éclaire, donc elle était le moyen qu'on utilisait, c'était l'électricité de l'époque, si vous voulez. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'olivier est considéré comme une image du Messie. Vous retrouvez ça dans le chapitre 4, du livre du prophète Zacharie, où il y a cette menorah toute d'or, avec de chaque côté deux oliviers, un à la droite et un autre à la gauche. Et le prophète demande à l'ange qui lui parle, qui sont ces deux-là, qui sont de chaque côté de la menorah, du chandelier. Et la réponse est celle-ci, ce sont les deux messies qui se trouvent devant le Seigneur de toute la terre. Par conséquent, l'olivier est l'image du Messie. Et là, nous retrouvons une image très intéressante, l'histoire de la colombe de Noé. La colombe de Noé, l'Esprit de Dieu, ramène au monde le Messie et sa lumière. Le Messie, dont il nous est dit aussi dans la tradition juive, que pour que l'olivier donne sa lumière, il faut que les olives soient broyées par une énorme meule, broyées complètement. Et les rabbins nous disent, il faudra un jour que le Messie soit broyé lui aussi. Et l'huile, ce sont les larmes de l'olivier, et de la même manière, eh bien, le Messie versera des larmes pour accomplir la rédemption au temps de la fin. Par conséquent, le Saint-Esprit amène la colombe, amène l'olivier, c'est-à-dire le Messie, au monde. Le Saint-Esprit qui va concevoir Jésus dans le sein de la Vierge Marie, Jésus donc, qui est né du Saint-Esprit, comme le texte que nous voyons ici le démontre. Donc il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Et puis Dieu va prononcer le mot par lequel il va créer la lumière. Et là, il y a un petit midrash, c'est-à-dire un petit récit un peu légendaire, mais qui est en même temps une espèce de parabole, qui nous dit que lorsque Dieu a voulu créer le monde au commencement et qu'il a vu tout ce spectacle que nous venons de décrire, les quatre empires, les ténèbres, la mer qui recouvrait l'eau, qui recouvrait le monde, Dieu a vu dans sa prescience, il a vu en un instant tout le mal qu'il allait y avoir sur la terre pendant l'existence de l'univers. Il a vu le péché du jardin d'Éden, il a vu Caïn tuant Abel, il a vu la corruption des gens du déluge, l'histoire de la tour de Babel. Bref, dans un éclair, il a vu tout le mal qu'il allait y avoir sur la terre. Et Dieu s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine de créer un monde aussi horrible? Si le monde doit être cela, est-ce que ça vaut la peine de le créer? Et Dieu hésitait. Dieu hésitait à dire le mot qui allait mettre en branle le processus de la création. Et alors, du sein de ces ténèbres, soudain, sont apparues trois figures lumineuses. Et ces trois figures lumineuses étaient celles des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et quand Dieu a vu ces trois personnages, Dieu s'est écrié qu'il y ait de la lumière. C'était le début de la création. C'est la raison pour laquelle on appelle les patriarches les pères de la lumière. Et pourquoi pères de la lumière? Parce que justement, ils seront les ancêtres du Messie. Et nous avons posé la question, d'où vient cette lumière qui est au commencement? Puisque les astres n'ont été créés que le quatrième jour. Cette lumière, c'est la lumière du Messie. Et il y a un autre midrash qui nous raconte que quand Dieu a créé la lumière, Satan a été très très surpris. Et il a posé la question au Seigneur. Il lui dit, mais d'où vient cette lumière? Et le Seigneur lui a répondu, elle vient de dessous le trône du Messie, celui qui un jour t'écrasera la tête. Par conséquent, le Messie est la lumière. Il est la lumière qui brille au commencement. D'ailleurs, il est intéressant de constater que les savants nous disent quelque chose de semblable. Ils nous disent qu'au commencement, il y a eu un formidable éclair, un formidable jaillissement de lumière dont on peut encore aujourd'hui mesurer les restes fossiles de ce rayonnement primitif qui a été ce qu'on appelle le Big Bang. Et les rabbins ont par conséquent donné au Messie le nom de Néhara, c'est-à-dire celui qui est la lumière. Et par conséquent, nous retrouvons ici le Messie qui est la lumière du monde, comme il le dira lui-même dans plusieurs textes. Et les textes en particulier où Jésus nous parle dans le sermon sur la montagne, aussi de la lumière du monde, qui est le peuple de Dieu. Maintenant, il y a toujours dans le récit de la création un autre texte tout à fait important, c'est la création d'Adam. Et il nous est dit ceci, d'abord, dans le premier verset de la Genèse, il est question de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et là, il y a un mot hébreu qui est très important, qui est le mot « bara ». « Bara », ça veut dire « créer à partir de rien ». Créer, comme les disent les savants, une création ex nihilo. Il n'y avait rien, et soudain, il y a eu quelque chose. Et ce mot, ensuite, n'apparaît plus dans la suite du récit. Il y a un autre mot qui apparaît, qui est le mot « assa », c'est-à-dire « faire, créer », mais créer à partir de quelque chose de préexistant. Et donc, nous voyons ici, après le premier bara, c'est-à-dire la création à partir de rien, Dieu va continuer son œuvre, mais il va continuer son œuvre à partir de ce qu'il a déjà créé, à partir de ce qui existe. Et il en est ainsi jusqu'au moment où Dieu va créer l'homme. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur tout oiseau du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Or ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Il nous est dit que Dieu crée l'homme à son image. Et ça, c'est très important, parce que nous allons là, ici, retrouver le Messie aussi. L'image de Dieu, c'est aussi le Messie. Et Dieu crée l'homme à son image. Et là, il nous est dit, il y a les deux mots qui apparaissent, Assa et Bara. C'est la deuxième fois dans le livre, dans le récit de la création, que le mot Bara apparaît. Assa d'abord. Assa, faire à partir d'une matière préexistante. Et quand nous lisons le deuxième chapitre du livre de la Genèse, nous voyons qu'en effet, l'homme a été créé à partir de quelque chose qui existait déjà. C'est à partir du limon de la terre. En cela, l'homme ressemble aux animaux. Il plonge les racines de son être physique dans l'animalité. Mais ce assa est en relation avec l'être physique de l'homme, non pas avec son être spirituel. Et dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, il nous est dit qu'après avoir ainsi façonné l'homme à partir du limon de la terre, Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie. Et là, l'homme devient un être vivant, il devient véritablement l'image de Dieu. C'est dans son être spirituel que l'homme est une création nouvelle. Et maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit aussi, c'est que Dieu les créa, mâle et femelle. Et là, il y a un pluriel. Dans le chapitre 2 de la Genèse, nous voyons comment les choses se passent. Dieu prend une côte d'Adam et à partir de cette côte, il va façonner une femme. C'est intéressant de reprendre le texte hébraïque directement. Nous avons deux mots, homme et femme, ish ve isha. Et dans le mot homme, il y a une lettre que nous ne trouvons pas dans le mot femme. C'est la lettre yud. Et dans le mot femme, il y a une lettre que nous ne trouvons pas dans le mot homme, qui est la lettre E. Et si vous mettez ces deux lettres ensemble, ça vous donne Yah, c'est-à-dire le nom de Dieu. C'est-à-dire que le couple, dans sa vocation, a pour mission de reproduire l'image de Dieu. C'est lorsque le couple est véritablement uni, qu'il est véritablement ce qu'il doit être, que se reproduit l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, nous la retrouvons dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, quand il nous est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et en hébreu, ça se dit, Vayu shnehem le basar echad. Et le mot echad, un, ils seront une seule chair, est un mot très important. En hébreu, il y a deux mots pour désigner un. Il y a ce mot echad, et puis il y a un autre mot qui est le mot yachid. Et ces mots ont un sens un petit peu différent. Yachid, ça signifie quelque chose qui est unique, qui est, comment dirais-je, monolithique, qui est indivisible en quelque sorte. C'est véritablement quelque chose qui est un. Et puis le mot echad a un autre sens. C'est une unité, oui, mais une unité dans la diversité. Et là, nous retrouvons le couple tel que Dieu le souhaite, tel que Dieu le désire, c'est-à-dire une unité, mais une unité dans la diversité. Il n'y a pas de perte de la personnalité, mais chacun apporte à l'autre ce qu'il a, et c'est cette complémentarité qui va façonner justement l'image de Dieu que nous avons évoquée. L'image de Dieu, elle est aussi représentée par le mot « Echad », on l'a vu tout à l'heure, Dieu est un. Et c'est le schéma, schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On retrouve le mot Echad. Par conséquent, cette unité du couple est une reproduction de l'unité de Dieu. Dieu est une unité, mais une unité plurielle. Et même les rabbins ont dit cela. Il y a dans le Zohar, qui est un texte qui date du Moyen Âge, il y a un texte qui nous dit ceci, Dieu a trois faces, on dit en hébreu « partsoufim ». Dieu a trois faces. Ça veut dire, en quelque sorte, on emploie une expression qui est très spéciale. Ce n'est pas le mot de personne, comme dans notre théologie trinitaire classique, mais c'est finalement l'équivalent. Partsouf, c'est une face. Le Dieu a trois faces. Et on pose la question, mais comment l'unique peut-il être trois? Et la réponse est celle-ci, c'est un mystère qui ne peut être révélé que par le Saint-Esprit, dit le Zohar. Et par conséquent, ici, nous avons une approche trinitaire du mystère de la divinité. Et par conséquent, il y a cette unité, Echad, qui est une unité dans la pluralité, qui est une unité dans la diversité. Et maintenant, il y a encore un autre détail fort intéressant, c'est le fait que le mot Echad a une valeur numérique très particulière. Les lettres de l'alphabet hébraïque sont des chiffres en même temps. C'est-à-dire que la première lettre, c'est 1, la deuxième lettre, c'est 2, la troisième lettre, c'est 3, et ainsi de suite. Si on n'a pas deux systèmes d'écriture pour les lettres et pour les chiffres. On n'en a qu'un. Et les deux systèmes, plutôt ce système-là, eh bien, nous permet d'additionner les valeurs numériques d'un mot. Ça veut dire qu'on prend la valeur numérique de toutes les lettres qui composent le mot, on les additionne et on a la valeur numérique du mot. Et c'est ainsi que le mot « Echad » en hébreu a comme valeur numérique 13. 1 égale 13. Ça, c'est une mathématique un peu particulière, mais c'est la mathématique biblique. Et toujours selon le procédé que j'évoquais tout à l'heure, qu'on appelle « Xera Shava », c'est-à-dire comparer des choses semblables, est-ce qu'il y a dans le vocabulaire hébraïque un autre mot qui a comme valeur numérique 13? Oui, il y en a un. C'est le mot « Ahava », qui signifie l'amour. Et l'amour est lié avec l'unité. Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme deviennent un? Eh bien, c'est justement l'amour. Et qu'est-ce qui fait que les trois personnes de la divinité, eh bien, sont une? C'est justement l'amour. Et l'amour conjugal devrait être un reflet, devrait être une image de cet amour divin. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous rappelle aussi dans le livre de la Genèse. Maintenant, à partir du premier chapitre de la Genèse, les rabbins ont élaboré aussi un autre aspect de la personne du Messie. On sait que l'aventure d'Adam, malheureusement, s'est mal terminée. Et lorsque Dieu crée le ciel et la terre, eh bien, il crée à la fois un monde spirituel et un monde matériel. Le ciel, c'est le monde spirituel, et la terre, c'est le monde matériel. Et ces deux mondes, Dieu va les peupler avec des êtres. Le ciel va être peuplé par les anges, qui sont des êtres uniquement spirituels. La terre va être peuplée par les animaux, qui sont des êtres uniquement matériels. Et puis, Dieu va créer, entre le ciel et la terre, un autre être qui est à la fois de la terre et du ciel, qui est à la fois matériel et spirituel, qui est l'homme. Et la vocation de l'homme, c'est d'être un trait d'union entre le ciel et la terre. Et ce trait d'union, malheureusement, l'homme ne va pas répondre à sa vocation parce que, justement, il va être tenté par le diable et il va pécher, comme on le sait. Et c'est donc un échec de la part de Dieu. Et les rabbins ont dit ceci, mais au temps de la fin, À cause de cet échec, Dieu va susciter un deuxième Adam. Un deuxième Adam qui sera le fils d'Adam. Ce que l'on appelle le fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Cette expression fils de l'homme, elle vient du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, où il est question de ce procès de la bête, la quatrième bête, et sur les nuées du ciel, nous est-il dit, je vis venir quelqu'un qui avait l'aspect d'un fils de l'homme. Le texte est en araméen, si bien que l'expression nous dit c'est Bar Enosh en araméen. Mais si nous retraduisons en hébreu, ça nous donne Ben Adam, un fils d'Adam. Adam, ça veut dire l'homme. Donc, un fils d'Adam. Le Messie est un fils d'Adam. Et le fils de l'homme de Daniel n'est autre en effet que le Messie dans ce qu'il a de plus glorieux, c'est-à-dire dans son rôle de juge des derniers jours et de rédempteur final, de rédempteur apocalyptique. Le Messie est donc ici le second Adam, notion que vous allez retrouver chez l'apôtre Paul au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et là, nous voyons le Dieu qui va recréer, en quelque sorte, enfin, pas recréer parce que Jésus n'est pas créé, mais qui va, en la personne de Jésus, redonner ce trait d'union entre le ciel et la terre que Adam aurait dû être. Il va réparer la faute d'Adam, il va réparer ce qu'a été l'erreur d'Adam. Et nous retrouvons aussi, bien sûr, cette idée avec la domination. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu leur donne un commandement. Le commandement, ce n'est pas ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Ça, c'est le deuxième commandement qu'il leur est donné. Mais le premier commandement, c'est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les animaux. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, nous voyons en effet Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Et nommer dans la Bible, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas simplement une mention sur un registre d'état civil, mais nommer, c'est prendre autorité sur la personne ou sur l'objet que l'on nomme. C'est prendre pouvoir sur ce qui est nommé. C'est ainsi, par exemple, que lorsque Dieu crée au commencement le ciel, la terre, la lumière, etc., Dieu les nomme. Il appelle les ténèbres jour, il appelle les ténèbres nuit, et il appelle la lumière jour. Il appelle l'amas des eaux mer, et le sec, il appelle terre. Ça veut dire, en nommant les objets qu'il a ainsi créés, Dieu prend pouvoir, prend autorité sur eux. Il dit que ce sont ses créatures, ça lui appartient. Et en même temps, il a des responsabilités vis-à-vis de ce qui est créé. Vous retrouvez cette idée dans notre civilisation moderne où quand un enfant naît, ce sont ses parents qui le nomment. En le nommant, ils manifestent que cet enfant est leur enfant, qu'il leur appartient, qu'ils ont autorité sur cet enfant et ils ont aussi des responsabilités vis-à-vis de cet enfant. Nous avons un très beau texte dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe où il nous est dit ceci. « Ne crains pas Jacob, ne crains pas Israël, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné, celui qui t'a formé, voilà, je te dis, ne crains pas, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Il y a cette relation entre le fait d'avoir été créé par Dieu et le fait de lui appartenir. Si je t'appelle par ton nom, c'est donc que tu es à moi. Et par conséquent, je vais te garder, je vais te protéger, je vais te délivrer de tous tes ennemis et de tout ce qui pourrait te nuire. Par conséquent, nous retrouvons ici cette idée de nommer. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, nous voyons Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme pour qu'il les nomme. Ça veut dire pour qu'il exerce cette autorité qu'il lui a donnée et qu'il manifeste que ces animaux sont bel et bien soumis à l'homme. Et Dieu va ratifier les choix de l'homme, ce qui est très intéressant. C'est très souvent le cas. Dieu ratifie les choix de l'homme. Et l'homme va donc nommer les animaux, mais il ne trouve pas d'être qui soit semblable à lui. Et Dieu va donc créer la femme. Et ce que la Bible appelle « ézer kenegdo », ça veut dire quelqu'un qui soit son vis-à-vis. Et il va prendre cette fameuse côte dont il est question dans notre texte pour créer une femme. Et les rabbins ont posé la question, pourquoi Dieu a-t-il pris une côte? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris un autre os que la côte? Alors la réponse est celle-ci. Dieu n'a pas pris un os de la tête pour que la femme ne domine pas sur l'homme. Dieu n'a pas pris un os du pied pour que la femme ne soit pas piétinée par l'homme. Mais Dieu a pris l'os qui était le plus proche de son cœur, la côte, pour que la femme soit dans son cœur, dans son amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et cette idée, elle est aussi très forte parce que le mot « tselem » côte, c'est le même mot que « image ». Dieu créa l'homme à son image. Enfin, c'est un mot proche, en tout cas c'est la même racine. Et l'image de l'homme, l'image de Dieu chez l'homme, en fait, tselem, c'est plus l'ombre que l'image. L'ombre, c'est une image, mais c'est une image qui n'existe pas sans nous. Elle n'existe pas sans notre propre personne. Et de la même manière, l'homme n'existe pas sans Dieu. Il ne peut pas être l'image de Dieu s'il n'est pas dans la communion de Dieu. Et nous retrouvons cela avec la femme. Tsela, la côte, ça peut être aussi le côté. Elle est à côté de lui. Elle est dans son amour, elle est dans son cœur, et elle est à côté de lui. Et en même temps, il nous est dit, elle est son vis-à-vis. C'est-à-dire, on dit en hébreu, « ézer kenegdo ». Littéralement, ça se traduit par une aide qui est contre lui. Pas seulement en face de lui, mais qui est contre lui. Il connaît une espèce d'opposition. Alors ça va faire plaisir aux sœurs, un petit peu moins aux frères, ce que je vais dire maintenant. Mais ça veut dire que quelquefois, la femme doit pouvoir s'opposer à son mari. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. Une femme doit pouvoir s'opposer à son mari parce que la femme est la seule personne qui est capable de dire à son mari un certain nombre de choses. Et heureux l'homme qui, dans ces cas-là, sait écouter la voix de sa femme. Et en même temps, donc, ézer kenegdo, c'est quelqu'un qui est en face de lui, qui lui fait vis-à-vis. Et il y a donc cette communion dont nous avons parlé, c'est deux qui deviennent un, et qui deviennent l'image de Dieu. Yah, mais si Dieu n'est pas dans le couple, si on enlève ces deux lettres que j'ai évoquées tout à l'heure, la lettre Yud et la lettre E, il ne reste plus que deux mots qui sont semblables, Esh des deux côtés. Esh, ça veut dire le feu. Feu contre feu, c'est la destruction du couple. Et le drame aujourd'hui est celui-là, effectivement. Bien souvent, Dieu n'est plus le troisième partenaire du couple, et c'est le feu qui prend le dessus, comme on le voit malheureusement dans beaucoup de couples, y compris aujourd'hui dans beaucoup de couples chrétiens. Donc, ici, nous retrouvons cette idée-là. Une aide qui sera semblable à lui. Et dans la tradition juive, il y a cette idée du deuxième Adam que j'évoquais tout à l'heure, du fils d'Adam. Et de la même manière, voyez-vous, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, en quelque sorte, le mariage, le premier mariage qui a été célébré dans l'univers, le mariage d'Adam et Ève a été célébré après que Adam ait pris sa domination sur les animaux. C'est là que sa femme lui a été donnée. Et dans la tradition juive, il y a l'idée que Dieu aussi veut marier le deuxième Adam, le Messie. Dieu a préparé une épouse pour le deuxième Adam. Alors cette épouse, dans la tradition juive, c'est Israël. Israël, qui a été en quelque sorte déjà épousé par Dieu au mont Sinaï, dans ce qu'on appelle en hébreu brit, c'est-à-dire une alliance. Un mariage, c'est une alliance entre deux êtres. C'est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de la création. Le mariage n'appartient pas à l'ordre de la chute, mais il appartient à l'ordre de la création. Et pour cette raison, le mariage est quelque chose de très important. Donc, Dieu épouse le peuple d'Israël au Sinaï. Et là, il y a cette alliance, ce contrat, où Dieu s'engage, comme le fait un époux juif aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un mariage juif. En tout cas, les deux époux prennent place sous un dénuptial qu'on appelle la choupa, qui est tenu par quatre garçons d'honneur, quatre piquets qui sont tenus par deux garçons d'honneur. Ça rappelle les tentes que l'on crée dans le désert. Quand un jeune couple se mariait, on lui offrait une tente qui allait lui servir de logement. Et donc, on retrouve un petit peu cette idée dans le mariage juif aujourd'hui. Et puis, le fiancé tourne trois fois autour de sa fiancée en lui disant ceci, « Tu es sanctifié pour être ma femme, selon la Torah de Moïse et d'Israël. » Sanctifié, ça veut dire mis à part. Ce n'est pas dans le sens d'une perfection morale, comme c'est le cas dans notre tradition, mais c'est le premier sens du mot sanctifié, c'est mettre à part. Ça veut dire parmi les millions de femmes qu'il y a dans le monde, toi, tu es mise à part pour être ma femme. Ça veut dire, je m'engage de n'avoir aucune relation avec une autre femme que celle que j'aurai avec toi. Et de ton côté, tu t'engages de la même manière vis-à-vis de moi, de n'avoir de relation avec aucun homme comme tu auras des relations avec moi. Dieu dit la même chose au peuple d'Israël au mont Sinaï. Il lui dit, si vous écoutez mes commandements et si vous acceptez ma Torah, vous serez pour moi un peuple unique. Ça veut dire, moi, l'Éternel, je m'engage à n'avoir avec aucun autre peuple les relations que j'aurai avec vous. Et vous, de votre côté, vous vous engagez à n'avoir parmi les multiples dieux qu'il y a parmi les nations, vous ne vous engagez à n'avoir aucun autre dieu que moi. Et c'est donc ici ce mariage qui est célébré au Sinaï. Dieu sera parfaitement fidèle à cette alliance et Dieu n'aura jamais d'autres relations avec aucun autre peuple. Dieu ne fera jamais d'alliance avec aucun autre peuple. Et notamment, Dieu ne fait pas d'alliance avec l'Église. Il n'y a pas d'alliance avec l'Église. La nouvelle alliance, elle a pour objet Israël. Je fais avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, une alliance nouvelle, dit le prophète. Et par conséquent, Dieu est celui qui va donner cette alliance. Et le problème, c'est qu'il ouvre cette alliance aux nations. Il ouvre cette alliance aux non-juifs, il ouvre cette alliance à l'Église. Mais l'alliance dans laquelle nous sommes inclus, vous et moi, par la foi en Jésus, c'est une alliance qui est d'abord faite avec Israël. Ça, il faut le rappeler. Donc, Dieu va être fidèle à son alliance. Malheureusement, le peuple d'Israël ne le sera pas. Et le peuple d'Israël ira vers de multiples divinités, vers de multiples dieux. Et il va se comporter en quelque sorte comme une épouse infidèle, comme une épouse adultère. Et l'idolâtrie est un adultère spirituel. Et c'est le péché endémique d'Israël qui n'arrive pas à se sortir de là. Dieu essaye par toutes sortes de moyens de pardonner, de ramener à lui. Mais c'est en vain. Le peuple d'Israël est trop pris par cette passion des idoles qu'il continue toujours ce même péché. Et vient un moment où Dieu dit, cette fois-ci c'est assez, je ne le supporte plus. Et il va faire subir à Israël le châtiment qui est celui des épouses infidèles, c'est-à-dire la répudiation. Et la répudiation va prendre la forme de l'exil. Israël va partir en exil. Et puis, quand Israël est parti en exil, Dieu s'interroge. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'arrive pas à me réconcilier avec cette idée que j'ai répudié Israël. J'aime trop Israël pour ça. Et je ne vais pas rester là-dessus. C'est un échec Et c'est un échec dont les nations vont se gausser également. Par conséquent, je ne peux pas rester sur cet échec-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais la ramener au désert. Et là, je vais parler à son cœur. Le désert, c'est le temps, pour les prophètes, des relations idéales entre Israël et Dieu. Et le prophète Jérémie nous dit « Je me souviens de ton amour de fiancé, de ton amour de jeune fille quand tu m'étais fiancé au désert. Tu me suivais dans une terre aride. » Et ça veut dire que Israël aimait tellement son Dieu qu'Israël était prêt à le suivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et le prophète déclare ceci, le prophète Osée, « C'est pourquoi je vais la ramener au désert et là je parlerai à son cœur. » Ça veut dire que je vais lui refaire la cour, je vais regagner son amour. Et là, eh bien, il y aura une nouvelle alliance. Ça veut dire que je vais réépouser Israël une deuxième fois. Et c'est tout le thème du Cantique des Cantiques, selon les rabbins, qui est le thème des épousailles, du deuxième mariage entre le Messie et le peuple d'Israël. Et ce mariage aura lieu à la fin de toute une période. Cette période, c'est la période c'est une période qui est marquée par la domination sur les animaux. Nous avons vu que le premier mariage a eu lieu après cela, après que les animaux aient été nommés par l'homme. Ça veut dire que l'homme ait pris domination et pouvoir sur les animaux. Et de la même manière, le Messie, le fils d'Adam, le second Adam, dominera sur les animaux quand il obtiendra son épouse à partir du moment où il aura dominé sur les animaux. Vous allez me dire, mais dans le Nouveau Testament, l'épouse, c'est l'Église. Alors, quelle est la vérité ? Est-ce que l'épouse du Seigneur, l'épouse du Messie, c'est Israël ou est-ce que c'est l'Église ? Est-ce que Dieu serait bigame éventuellement ? Non, bien sûr. Mais ça veut dire qu'au temps de la fin, Israël et l'Église ne feront plus qu'un. Et par conséquent, l'épouse dont il est question, c'est à la fois Israël et c'est à la fois l'Église. Et cette domination aura lieu... ce mariage aura lieu après que le Messie ait dominé sur les animaux. Et quels sont les animaux sur lesquels le Messie va dominer ? Les quatre bêtes dont nous avons parlé. Tohu, Vohu, Rocher, Uteom. Ces quatre animaux qui sont les puissances des ténèbres, ces quatre animaux qui vont ravager la terre pendant tout le temps où le royaume de Dieu ne soit établi sur la terre, ces animaux vont commettre des ravages abominables. Et quand nous le lisons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7, c'est à partir de ce moment-là que le Fils de l'homme vient pour juger les animaux, juger les quatre bêtes. Il apparaît sur les nuées du ciel pour juger les quatre bêtes et pour les anéantir, les mettre à la raison. Et c'est ce que fera le Messie au dernier jour. Et quand le Messie aura réduit à néant ces animaux féroces, ces quatre bêtes féroces, Dieu lui donnera son épouse, Dieu lui donnera Israël et l'Église pour manifester cette aide qui est semblable à lui. Et il y aura donc cette osmose que nous avons évoquée ici. Il me reste un quart d'heure. Je vais commencer le chapitre suivant, le chapitre 3. Le chapitre 3 du livre de la Genèse contient ce qu'on appelle le proto-évangile. Ça, tous les chrétiens le savent bien, on le sait aussi. Et c'est lorsque le péché a été commis, a été consommé, Dieu va maudire les uns et les autres de tous les protagonistes du drame. Et il va maudire le serpent en particulier. Et au serpent, voici ce qu'il est dit. Voilà. Tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'écraseras le talon. » Je suis désolé, il y a une erreur de traduction. Et une erreur ici importante. Il nous est dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et alors, celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci, c'est-à-dire ta descendance. En fait, le texte hébreu ne nous dit pas cela. Ici, le texte hébreu, le mot « descendance », semence, tout ce que vous voudrez, généalogie, est féminin comme en français. Et de fait, il faudrait mettre « celle-ci t'écrasera la tête ».« Cette descendance t'écrasera la tête ». Or, en hébreu, nous avons un pronom masculin singulier. « Il t'écrasera la tête ». Je mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. « Il t'écrasera la tête ». Et tu lui blesseras le talon. Alors, évidemment, ça peut paraître être une faute, et tous les traducteurs ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit, évidemment, mais les rabbins ont gardé ce texte, et ils considèrent que c'est très important. Il, masculin singulier, ça veut dire un individu parmi la descendance de la femme. Pas tout les descendants de la femme écrasant la tête du serpent, mais un individu. Et cet individu, c'est le Messie. Le Messie qui sera la semence de la femme. Et voyez-vous, c'est très important, parce que si on garde la traduction traditionnelle, celle-ci, cette descendance, t'écrasera la tête. C'est toute l'humanité. Donc c'est toute l'humanité qui va se sauver elle-même. C'est toute l'humanité qui va accomplir elle-même sa propre rédemption. Mais le texte hébreu nous montre que c'est un seul individu qui va accomplir cette réalité, et cet individu, c'est le Messie. Le Messie, dont il est question aussi dans le texte sur la naissance de Seth, le fils qui va remplacer Abel qui a été tué. Et ça, en hébreu, ça veut dire ajouter, celui qui est ajouté. Et les rabbins considèrent que ce garçon, c'est une image du Messie qui viendra. Et ce qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire le début de l'évangile, puisque là il est question de celui qui écrasera la tête du serpent, qui mettra fin justement à ce régime de la chute, eh bien, nous le retrouvons dans cette idée de ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Alors, il faut comprendre ce qu'est le tikkun olam. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé un monde parfait, un monde harmonieux, un monde qui était un. Et quand la chute, quand le péché est entré dans le monde, c'est comme si ce vase magnifique avait été brisé en mille morceaux. Et le rôle du Messie, le rôle de ce fils de la femme dont il est question dans notre texte, c'est de réparer la brisure du monde, ce qui se dit en hébreu « tikkun olam ». Réparer la brisure du monde, c'est-à-dire rétablir le monde tel qu'il était au commencement, dans son caractère harmonieux. Et cette réalité, nous la retrouvons dans d'autres textes, par exemple dans le livre des psaumes, où nous retrouvons l'occasion d'en reparler quand nous parlerons justement des psaumes, mais on trouve aussi dans le Nouveau Testament cette expression à deux reprises. Le premier dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, au moment de la Sainte Cène. Au moment de la Sainte Cène, les disciples, Jésus dit à ses disciples, au temps du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et cette expression renouvellement de toutes choses, c'est la traduction grecque de l'expression hébraïque tikkun olam, réparation de la brisure du monde. Vous retrouvez une deuxième fois cette expression dans le livre des Actes, où l'apôtre Pierre, le jour de la guérison du paralytique de la belle porte, demande à tous ses auditeurs de se repentir afin, dit-il, que vienne le renouvellement de toute chose. Donc le renouvellement de toute chose, c'est cet effacement de la brisure du monde, cette réparation de la brisure du monde. Seulement, comme le disent les rabbins, cette réalité, elle ne se fait pas toute seule. Les rabbins disent ceci, c'est par la jalousie de Satan que le péché est entré dans le monde. Et il est question du Messie qui sera blessé au talon. Les talons, c'est très important. Et il y a dans la tradition juive cette idée qu'au temps de la fin, quand le Messie viendra pour rétablir justement ce rétablissement de toutes choses pour le Tikkun Olam, on entendra le bruit des talons du Messie à cause de ce texte. Non pas les traces du Messie, mais les talons du Messie. Et ce sont ces talons qui ont été percés. Les rabbins font allusion au psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds à partir de ce texte-là. Et en 1970, on a découvert, alors qu'on traçait une route sur le mont des Oliviers, on a découvert une vieille tombe qui datait de l'époque du Deuxième Temple, c'est-à-dire de l'époque du Nouveau Testament. Et dans cette tombe, il y avait un ossuaire, c'est-à-dire un petit coffre en terre cuite ou en pierre, dans lequel on mettait les ossements des morts après que la chair se soit décomposée. On mettait le nom du défunt sur l'ossuaire et on le mettait dans une sépulture à part, une sépulture spéciale. On a trouvé donc ici une sépulture, un ossuaire sur lequel il était écrit Yohanan, c'est-à-dire Jean, ve Yohanan ben Agakol, et Jean le fils du pendu. Donc deux individus se trouvaient à l'intérieur de cet ossuaire. Et quand on a ouvert cet ossuaire, pour la première fois, on a découvert le squelette d'un crucifié. On a pu étudier à fond le processus de la crucifixion et l'on sait exactement comment cela se pratiquait. Le fameux Yohanan qui a été crucifié avait à peu près le même âge que Jésus quand il l'a été lui aussi. Et il y avait son jeune fils qui était enterré avec lui. Vraisemblablement, ce garçon avait été massacré sous les yeux de son père pendant qu'il agonisait sur la croix, comme c'était la coutume des Romains d'agir. Et par conséquent, le fils du pendu, il s'appelait comme son père Jean, et le fils du pendu, c'est-à-dire celui qui avait été crucifié, puisque la crucifixion était assimilée à une pendaison. Ce qui était intéressant, c'est que les talons du crucifié étaient transpercés par un énorme clou qu'on n'avait pas enlevé. Et les deux talons, quand on avait descendu le crucifié de la croix, il avait fallu sectionner les jambes et on avait gardé, donc tellement le clou était fort, on avait gardé ce clou jusque dans la sépulture de cet homme-là. Et si bien que, contrairement à l'imagerie populaire, les deux pieds de Jésus n'étaient pas superposés et le clou venait là comme ça, mais c'était les talons qui étaient joints. C'est-à-dire que la position du crucifié sur la croix était celle-là. Vous imaginez la position tout à fait inconfortable que cela pouvait représenter. On lui blessera le talon. Et voyez-vous, la parole de Dieu, dans ce domaine-là, s'est accomplie aussi à la lettre. Ils ont percé les mains et mes pieds. Et Rachid nous dit ceci, ce sont les plaies du Messie. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que cela puisse se réaliser. Et cela nous ramène à la parole que Jésus a dite à Nicodème dans l'évangile de Jean, où il nous est dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus fait une allusion dans cet entretien avec Nicodème à l'épisode des serpents dans le désert. Là aussi, les questions de serpents. La malédiction, elle est adressée aux serpents. Et on a un vieux texte qui s'appelle « La sagesse de Salomon » qui nous dit ceci, je vous lis. Il a donné, au sujet des serpents brûlants dans le désert, « Il a donné un signe de salut par la vertu du Sauveur, car toi, tu fais descendre au séjour des morts et tu en fais remonter. Et par conséquent, ici, c'est une allusion à la résurrection de Jésus, à la résurrection du Messie, à laquelle, justement, les rabbins croient, le Messie ressuscitera au dernier jour. Selon il fera la paix à la fin des temps, quand cette génération aura la face d'un chien. Et c'est par conséquent du Messie qu'il est question ici. Maintenant, oui, j'ai 2 minutes encore. Je commence juste ce propos et j'y reviendrai tout à l'heure. Il est question dans un autre. Donc le Messie ici qui aura cette fonction de réparer la brisure du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle Ben Peretz, le fils de Peretz. Peretz, c'était le fils de Judas et de Tamar, qui avait été enfanté dans des conditions assez discutables d'ailleurs, mais que nous retrouvons dans plusieurs chapitres plus loin dans le livre de la Genèse. Et Peretz, en hébreu, ça veut dire la brèche. Le Messie est celui qui fait la brèche. Le Messie est celui qui, non seulement il fait la brèche, mais aussi il répare la brèche. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous parler plus longuement du fils de Peretz, en relation justement avec ce Messie qui fait la brèche dans le mur de séparation qu'il y avait aussi entre juifs et non-juifs, pour, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors voyez-vous, déjà ici nous avons juste étudié quelques versets du livre de la Genèse. Vous voyez que c'est très très riche et qu'il y a beaucoup d'images que nous pouvons retrouver à la fois dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament. Bien, je vais m'arrêter là pour le moment, on reprendra tout à l'heure.
On peut juste laisser quelques minutes si certains ont des questions.
Oui, on peut, bien sûr.
Si vous avez le désir d'avoir peut-être une réponse à quelque chose qui vous pose question, qui n'est pas bien compris, ou peut-être même que vous n'êtes pas, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être partagé là? Ça fait un peu riche, mais vas-y, Michael.
Oui, merci Jean-Marc. Je voulais revenir un petit peu sur la notion du décès.
Jésus, selon ce qui nous est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, est celui qui a mis fin donc à cette inimitié qu'il y avait entre juifs et non-juifs, et il a fait la brèche dans le mur de séparation qui était donc l'inimitié. Il y avait un autre texte aussi où il est question de la brèche, ça j'en parlerai demain. Et je voudrais maintenant m'arrêter sur un autre texte qui est le chapitre 49 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 49, où nous avons un des noms du Messie qui est tout à fait particulier. Verset 9 du chapitre 49. « Judas est un jeune lion, tu remontes du carnage, mon fils. Il plie le genou et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. » Le bâton du commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans son vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Il y a ici un passage très mystérieux qui nous parle du fait que le bâton du commandement ne s'éloignera pas de Judas. Judas, on le sait, c'est la tribu messianique, c'est la tribu dans laquelle le Messie est né, et par conséquent, il n'est pas étonnant de trouver ici une prophétie messianique, mais jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors Shiloh, c'est ce qu'on appelle en traduction un apax legomenon, c'est-à-dire une expression qui ne revient nulle part dans la Bible, ni d'ailleurs en dehors de la Bible. C'est un mot unique, le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, dominateur des peuples. Alors, qu'est-ce que ce mystérieux Shiloh? Les sages d'Israël sont partagés sur cette expression-là, et notamment dans la vision non messianique qui est la leur aujourd'hui, ils ont voulu trouver toutes sortes d'explications qui ne sont pas justement des explications messianiques. Mais les sources anciennes, en particulier les Targum, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible, interprètent cette expression comme se référant au Messie. Le Shiloh, le Messie. Donc Shiloh serait un des noms du Messie. Shiloh, on le sait, était aussi le nom d'une ville qui avait servi de lieu où avait été placée l'Arche d'Alliance pendant un certain nombre d'années. Et il y a donc dans cette ville quelque chose qui pourrait avoir une relation avec le Shiloh de notre texte ici. En tout cas, ce lien reste très, très mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il y a une correspondance entre ces deux mots? On ne sait pas trop. En tout cas, Shiloh peut avoir deux significations, deux sens. Ça peut être une abréviation de Shaliar. Shaliar, ça veut dire l'envoyé, l'apôtre, le messager. Donc, il s'agirait ici du messager du Seigneur jusqu'à ce que vienne l'envoyé du Seigneur. On pourrait le comprendre comme cela. Ça peut aussi signifier autre chose. Shiloh, on décompose le mot en deux mots. Shai, ça veut dire des dons pour lui. Et selon toute vraisemblance, cette étymologie est la plus sûre. Shiloh, des dons pour lui, celui auquel on apportera des dons. Et notamment, ce qui est essentiel dans ce texte, c'est le fait que le Shiloh, le Messie, est le dominateur des nations. Il attache son âne à sa vigne, et âne, ça peut se traduire aussi par ville. Il attache donc sa ville à sa vigne. La ville, c'est Jérusalem, et la vigne, c'est Israël. Donc le Messie aura cette relation avec Israël et avec Jérusalem, dans ce sens qu'il les unira entre elles et il fera donc la paix entre elles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie était connue de Matthieu, en particulier dans l'évangile de l'enfance. Et il y a, les rabbins font des allusions à des textes des psaumes où il est question des rois de Sheva et les rois de Dédan qui apporteront des présents à celui qu'il faut craindre. On trouve ça aussi dans le texte d'Ésaïe 61 où les nations apporteront des dons à l'envoyé du Seigneur, donc au Messie. Et Matthieu a repris ce texte en relation avec l'adoration des mages. Les mages sont les premiers non-juifs à venir adorer le Seigneur. C'est les premiers, tout simplement, même avant les juifs, qui viennent adorer le Messie et lui apporter des présents, selon ce qui est écrit justement dans ces psaumes, ce qui est écrit dans ce texte, des dons pour lui. Ils apporteront des dons pour lui. Qui étaient les mages? Les mages étaient des astrologues, et qui était en relation avec Balaam, qui était des disciples de Balaam, lequel Balaam avait prophétisé la sortie d'un astre. Un astre sort de Jacob, au chapitre 24 du livre des Nombres, hein, et il perce les flancs de Moab. Et ces mages avaient gardé donc l'idée, la tradition, qu'il y aurait un astre qui apparaîtrait pour annoncer la venue de ce roi des Juifs qui avait été prophétisé par leur maître qui était Balaam, et par conséquent, ils attendaient cet événement avec le plus grand soin, et quand il s'est réalisé, ils se sont mis donc en route vers Jérusalem, comme on le sait. Ce qui est très intéressant, c'est de noter que les mages viennent adorer Jésus en tant que roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et c'est en tant que roi des Juifs qu'il adore. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire, pour Matthieu, que les païens ne peuvent être sauvés qu'à partir du moment où ils reconnaissent que Jésus est le roi des Juifs. C'est ce qu'on trouve aussi sur la croix, quand il y avait une inscription en latin, en hébreu et en grec qui disait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Par conséquent, il faut que l'univers tout entier, donc les trois langues qui étaient les plus parlées à l'époque de Jésus, l'univers tout entier sache que Jésus est le roi des Juifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Au IVe siècle, nous avons le plus ancien, la plus ancienne hymne chrétienne que l'on, dont on connaisse la mélodie. On a beaucoup de chants qui sont chrétiens, mais on a les paroles. On a les paroles de la Bible, on a les paroles du Magnificat, on a les paroles du Cantique de Zacharie et de d'autres, sans parler des psaumes, bien sûr. Mais on n'a plus les mélodies, on n'a plus la musique. Et le plus ancien texte, le plus ancien chant chrétien dont nous possédions la mélodie est dû à un certain Ambroise de Milan, un des pères de l'Église, qui, comme son nom l'indique, était archevêque de Milan. Et à l'occasion d'une des fêtes de Noël, il avait donc entonné cet hymne qui est encore chanté aujourd'hui et qui a été, par exemple, reprise par Jean-Sébastien Bach. « Viens maintenant, toi, le sauveur des païens. » C'est-à-dire que pour Ambroise de Milan, qui était très antisémite, le Jésus était essentiellement et exclusivement le sauveur des païens. Il refusait de reconnaître en Jésus le roi des Juifs. Or, ça, c'est une aberration et c'est quelque chose d'extrêmement grave. D'ailleurs, quand nous disons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons ? Beaucoup s'imaginent que Jésus, c'est son prénom et que Christ, c'est son patronyme, comme moi, je m'appelle Tobois. Par exemple, on demandait un jour à un jeune garçon, « Est-ce que tu connais Jésus-Christ ?» Alors, il s'est gratté la tête un peu. Il a dit « Jésus-Christ, oui, c'est un nom qui me dit vaguement quelque chose. Ce ne serait pas un Espagnol, quelquefois. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'appellent Jesús, Jésus. Et par conséquent, ils pensaient que c'était quelqu'un qui était d'origine de cette nation. Quand nous disons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons ? Disons Jésus, Christos. Christos, c'est l'équivalent de Messie. C'est la traduction grecque du mot « Mashiach », le Messie. Et par conséquent, le Messie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le Messie ? Le Messie, c'est le roi. Mashiach, ça veut dire celui qui a été oint, qui a été oint d'huile. Vous savez, on oignait d'huile les prophètes, les prêtres, les rois, et ils étaient consacrés à leur office. Et le Messie est roi. Et on les appelait Mashiach Adonai, loin de l'Éternel. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction pour devenir roi. Par conséquent, quand nous disons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons Jésus est le roi des Juifs. Voilà ce que nous disons. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et c'est par conséquent ici en relation avec le Shiloh. Maintenant, je voudrais reprendre deux autres textes. Une chose importante aussi à préciser sur cette prophétie du Shiloh, c'est qu'elle a été donnée par Jacob sur son lit de mort. Il y a cette idée dans le judaïsme que les mourants sont déjà en relation avec l'au-delà et par conséquent, ils sont animés de l'esprit de prophétie. Et il nous est dit que Jacob a prophétisé sur les temps de la fin, et sur les choses dernières. Mais finalement, il n'a pas tellement, quand on lit la suite de ce qu'il a reçu, il n'est pas tellement question des choses de la fin. Et les sages d'Israël nous disent qu'au dernier moment, Jacob a été empêché par le Seigneur de rapporter les choses futures, les choses qui devaient s'accomplir dans l'avenir. Et par conséquent, il s'est arrêté à cette prophétie du Shiloh, qui était la prophétie sur la venue du Messie. Maintenant, je voudrais parler du Messie en relation avec Jacob. Jacob, qui, comme on le sait, avait dû s'enfuir du pays d'Israël et s'était rendu à Bethel. Et là, il avait pris une pierre dont il avait fait son chevet. Cette pierre, elle était une pierre banale, c'était une pierre quelconque, et évidemment, il n'avait pas l'intention de l'utiliser plus qu'il ne le fallait. Et puis, on sait qu'il a eu un songe. Il a vu une échelle dont la base reposait sur cette pierre, justement, et dont le sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et là, évidemment, il a reçu une parole de Dieu qui lui disait, en substance, qu'il n'est pas à craindre. Il partait en exil, mais le Seigneur serait avec lui, et le Seigneur le garderait, le Seigneur le ramènerait dans ce pays. Par conséquent, c'était une promesse. Et les anges étaient des êtres qui étaient destinés à accompagner Jacob dans son exil, à le garder et à le préserver. Et le lendemain, quand il se réveille, Jacob est effrayé. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est le temple de l'Éternel, et c'est quelque chose de grave. C'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que Jacob avait été averti ainsi par le Seigneur de ne pas se laisser séduire par ce qu'il allait voir en Mésopotamie, en Babylonie, les temples, les constructions gigantesques, magnifiques qu'il allait réaliser, qu'il allait voir, ne pas se laisser impressionner par cela, parce que ce n'était pas véritablement les choses de Dieu. Jacob se trouve donc à Bethel, et là, il nous est dit qu'il prit la pierre. Cette pierre qu'il avait, sur laquelle il s'était couché, et il la dressa en stèle. Ça veut dire qu'il l'a mis droite. Et là, il y a toute une typologie de la pierre. À Jérusalem, il y a sous le dôme du rocher une pierre qu'on appelle la pierre fondamentale, sur laquelle est construite aujourd'hui la fameuse mosquée qui fait tant parler d'elle, et qui représente l'endroit où se tenait le lieu très saint. Et cette pierre, elle est considérée comme quelque chose de saint, bien sûr, et d'après la légende, d'après la tradition, elle n'est autre que la pierre de Bethel, qui a été miraculeusement transportée de Bethel à Jérusalem pour être l'endroit sur lequel se trouverait le lieu très saint. Maintenant, cette pierre, elle était une pierre, la pierre de fondement, comme on l'appelle, et c'était une image. Et les rabbins prennent le psaume 118, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre, ça veut dire cette pierre qu'il avait prise pour en faire son chevet et qui était une pierre quelconque, qui était une pierre banale. Soudain, Jacob s'est rendu compte que c'était une pierre fondamentale, une pierre précieuse et par conséquent, il était sur le point de la rejeter. Et les rabbins ont dit, eh bien, cette pierre, en fin de compte, c'est le Messie. C'est l'image du Messie. Le Messie est semblable à une pierre de fondement. Et cette pierre de fondement, elle se trouve à Jérusalem, mais elle était au préalable à Bethel. Et à Bethel, il y a eu plusieurs manifestations de la gloire de Dieu, et en particulier cette manifestation des anges qui ont montré que ce lieu était véritablement un lieu sacré, c'était la maison de Dieu, c'était la porte du ciel, et que la pierre était une pierre importante et une pierre que Jacob avait l'intention de le rejeter. Et les sages d'Israël disent, il en sera de même à la fin. Le Messie, nous serons tentés de le rejeter. Et ce n'est qu'au dernier moment que nous reconnaîtrons comme Jacob que cette pierre est une pierre importante et que le Messie est véritablement celui que nous attendions. Vous voyez à quel point les rabbins, les sages d'Israël sont proches de la vérité du Messie, qu'il leur faut une petite chiquenote, comme le dit l'apôtre Paul, c'est pas un mur de béton qui est sur les yeux du peuple d'Israël, c'est un voile, c'est-à-dire c'est quelque chose de ténu. Et Jacob, donc, va prendre cette pierre et il va la dresser en stèle. Et là, il va loindre d'huile et il va lui donner l'onction. C'est-à-dire, comme le traduit André Chouraki dans sa traduction, il va la messier et il va faire en sorte que cette pierre devienne la pierre d'onction, ça veut dire l'image du Messie. Il y a une autre tradition qui nous dit que cette pierre, elle était aussi une pierre qui était morcelée. Elle était morcelée en 12 morceaux parce qu'elle représentait les 12 fils de Jacob. Et les 12 fils de Jacob sont destinés à être les fondements du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël se construit, on voit ça par exemple dans les documents de Qumran, se construit sur différentes strates. Il y a d'abord la pierre de fondement, c'est-à-dire le Messie. Le Messie est la pierre d'angle qui a été posée. Et sur cette pierre fondamentale dont il est question dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit « Je mets à Sion une pierre précieuse, et celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir ». Par conséquent, ça c'est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement que celui du Messie. Le Messie est la pierre fondamentale. Et ensuite, sur cette pierre-là, il y a 12 autres pierres qui sont les 12 fils de Jacob. La pierre fondamentale, elle est aussi parfois assimilée aux patriarches, c'est-à-dire essentiellement à Abraham, Isaac et Jacob, qui sont aussi représentés comme étant les ancêtres du Messie et par conséquent qui font aussi partie de la pierre fondamentale. Et puis, il y a 12 fondements qui sont les 12 fils de Jacob. Et ensuite, il y a Israël qui est construit sur cette pierre-là. Il est très intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, vous retrouvez une structure semblable. Et dans la première épître aux Corinthiens, vous lisez ceci. Paul déclare « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Et chacun doit prendre garde à la manière dont il construit dessus. Et ensuite, il dira dans l'épître aux Éphésiens « Vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre d'angle. » Donc la pierre fondamentale, la retrouvons comme dans le judaïsme, c'est le Messie. Mais au lieu des 12 fils de Jacob, nous retrouvons les 12 apôtres. Les 12 apôtres qui sont les fondements de l'Église. Et puis ensuite, chacun construit sur ce fondement, comme dira l'apôtre Paul, avec des matériaux précieux ou des matériaux vils, selon ses désirs, en quelque sorte. Et vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, où nous retrouvons la Nouvelle Jérusalem avec 12 portes. Et sous les portes, vous avez 12 fondements, qui sont les fondements qui sont les 12 tribus d'Israël, donc les 12 fils de Jacob. Et vous retrouvez des pierres précieuses sous chacune de ces portes et le nom des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a assimilation entre les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Quelle est cette relation? Eh bien, Jésus le dit dans le texte que nous avons évoqué tout à l'heure du chapitre 22 de l'évangile de Luc, quand il dit « Lors du renouvellement de toutes choses, vous, mes disciples qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Juger, dans le langage biblique, ça signifie aussi gouverner. Ça veut dire vous serez les chefs, vous serez les leaders du peuple d'Israël. Et par conséquent, il y a un apôtre par tribu. Et on retrouve cela dans le livre de l'Apocalypse, où à chaque porte où il y a le nom des fils de Jacob est associé un des 12 apôtres, qui sont les chefs des tribus à venir. Vous trouvez ça aussi dans la parabole des mauvais vignerons, où Jésus évoque justement le psaume 118, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Et il dit aux Sadducéens, disons aux grands prêtres auxquels il s'adresse dans cette parabole, parce que cette parabole, elle s'adresse aux Sadducéens, il dit ceci, c'est pourquoi le royaume, c'est-à-dire la domination, l'hégémonie, le leadership vous sera enlevé et donné à une nation qui en portera du fruit. Alors on a souvent interprété cette parabole comme s'appliquant au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël et les mauvais vignerons qui ont persécuté les prophètes, qui ont ensuite mis à mort le Fils, tandis que l'Église, les païens, ce sont ceux auxquels le Seigneur donnera la vigne au temps de la fin. En fait, la fin de la parabole nous montre que cette interprétation est fausse, parce qu'il nous est dit ceci, que les grands prêtres comprirent que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Donc, le sens de la parabole est très clair. Jésus annonce que le leadership actuel, qui est celui des grands prêtres, est celui qui, de tout temps, du temps des prophètes aussi déjà, avait persécuté justement ces mêmes prophètes qui étaient les envoyés de Dieu. Et la vigne, c'est Israël. La vigne, c'est toujours l'image d'Israël. Et puis, c'est eux qui vont maintenant assassiner le Fils. Par conséquent, la pierre qu'ils ont rejetée, c'est-à-dire les 12 apôtres, va devenir le leadership de ce peuple d'Israël au temps de la fin, quand le Seigneur reviendra. Les apôtres en seront les représentants. C'est pourquoi il y avait 12 apôtres. Il n'y en avait pas 13, il n'y en avait pas 11. Quand il y en a eu 11, il a fallu en élire un 12e, parce que ce sont les apôtres d'Israël, ceux qui sont en relation directe avec le leadership qui sera celui de la fin, comme on le trouve d'ailleurs dans les Béatitudes également. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les apôtres sont les pauvres en esprit qui ont accompagné Jésus dans ses pérégrinations et dans ses souffrances, dans son rejet, etc. Et par conséquent, au temps du renouvellement de toutes choses, au moment du Tikkun Olam dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous retrouvez cette idée aussi dans les traditions des Bédouins. Et il faut savoir qu'en Israël, quand l'été, les Bédouins campent dans les lits des ouèdes, c'est-à-dire des torrents qui sont à sec. Parce que même s'ils sont à sec, il y a toujours un peu d'humidité qui reste et on peut creuser des puits jusqu'à la nappe phréatique et obtenir donc un peu d'eau. Ça, c'est pendant tout l'été. Et quand vient la mauvaise saison, alors ils déménagent et ils vont s'installer sur des rochers. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des pluies torrentielles qui s'abattent d'une manière extrêmement violente et d'une manière extrêmement rapide et qui sont absolument dévastatrices. Et on a par exemple, on entend, tout est clair, le soleil brille, le ciel est complètement dégagé, bleu, et vous entendez simplement un grondement dans le lointain. Ça veut dire qu'à 10 km en amont, vous avez un orage. Les orages sont très localisés. Et cet orage provoque une pluie torrentielle qui va dévaler dans les ouèdes. Et si vous êtes dans le lit des ouèdes, vous êtes emporté comme des fétus de paille. Mon fils habite dans un endroit où il y a 2 ouèdes. Il y a quelques années de cela, ils ont eu des inondations terribles. L'Oued avait pris des proportions énormes, c'était un véritable fleuve. 2 soldats d'ailleurs sont péri noyés dans cette affaire et les ponts étaient emportés. C'est une violence absolument inimaginable. Des autobus sont emportés comme des fétus de paille. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et tous les ans, il y a des accidents à cause de ces pluies d'hiver qui tombent dans le désert. Je me souviens moi-même de m'être trouvé dans une situation où nous étions avec un pasteur, notre pasteur, nous devions aller sur Eilat. Nous étions partis de Jérusalem le matin, il faisait un temps splendide. Et quand nous sommes arrivés à Qumran, le soleil s'est obscurci et il s'est mis à tomber une pluie torrentielle. Et la route était coupée par les ouèdes qui dévalaient des falaises de Qumran. Impossible de passer, dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre que ça se passe. Mais mon ami était pressé, il voulait absolument passer à tout prix. Et nous avions loué une petite ostine qui était très légère. Il m'a dit, écoute, c'est facile, tu recules, tu prends ton élan et tu passes dans l'oued et puis il n'y aura pas de problème. Je ne voulais pas. Et il insistait tellement que finalement je me suis laissé faire. Alors j'ai pris mon élan et puis la voiture au beau milieu du torrent a calé. Et puis la violence du torrent était telle que la voiture commençait à faire ça. Je suis sorti à toute vitesse de là. Je n'avais pas envie d'être emporté. Je m'enfonçais dans la boue jusqu'aux cuisses. J'ai réussi à me sortir de là. Il y avait heureusement une jeep militaire qui était dans le coin, qui avait un câble avec un crochet et qui a sorti la voiture de cette position délicate. Mais c'était quelque chose de très, très impressionnant. Et par conséquent, donc, les Bédouins décampent l'hiver et vont s'installer sur les rochers, parce que là, sur les rochers, ils sont sûrs de ne pas pouvoir, de ne pas être emportés. Et l'image du rocher, c'est l'image du Messie dans la Bible. Nous avons ça dans le psaume 40. Et là, quand j'ai fait cette expérience dont je vous parlais tout à l'heure, on retrouve j'ai mieux compris ce psaume 40. Tu m'as retiré du bourbier fangeux et tu as mis mes pieds sur le roc. Un des professeurs de l'Université de Jérusalem, qui s'appelle le professeur Noga Reuveni, qui est un grand spécialiste du désert, racontait que pourtant, lui qui connaît très bien le désert, il s'était laissé prendre un jour dans un de ses torrents. Il avait été emporté par le torrent. Et donc, il était, se voyait perdu. Il avait constaté une chose, c'est que le torrent coulait moins vite sur les bords qu'au centre. Alors, il avait essayé de se rapprocher du bord et par un providentiel hasard, il y avait un rocher qui se trouvait juste sur la berge. Et il dit, j'ai eu le temps d'empoigner le rocher et je me suis sorti de là. Tu as tiré mes pieds du bourbier fangeux et tu as mis mes pieds sur le roc. Le Seigneur est comparé à un rocher. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Et souvent, nous retrouvons cette image du rocher pour signifier ou Dieu ou le Messie, c'est pas dans la parole du Seigneur. Et il y a un autre texte aussi où il est question du rocher, c'est dans l'évangile de Matthieu où il est écrit, c'est la fameuse confession de Pierre, la fameuse confession de Césarée, où Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis ? Et Jésus répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, tu es heureux, Simon, fils de Yohanna, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire que ce n'est pas humainement que tu es arrivé à cette conclusion-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Là, il y a un jeu de mots qui est souvent très, très mal traduit en français dans la plupart de nos Bibles. Je te dis que tu es Pétros, et sur cette Pétra, je construirai mon Église. Deux mots, Pétros et Pétra. Pétros, c'est une simple pierre, un petit caillou. Pétra, c'est un rocher. Par conséquent, Pierre, contrairement à ce que l'on considère généralement, n'est pas le rocher. Il est une pierre, simplement. Et le rocher en question, eh bien, c'est ce que Pierre vient de confesser. C'est-à-dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, sur cette pétra, sur ce rocher que tu viens de confesser, je bâtirai mon Église. Et toi, Pierre, et les autres apôtres, vous serez des pierres exactement comme les 12 fils de Jacob dont on parlait tout à l'heure. Nous retrouvons la même structure que celle que nous avons évoquée pour le peuple d'Israël, à savoir le Messie, qui est la pierre de fondement, la pierre qui a été rejetée, la pierre du psaume 118. Les 12 pierres qui sont aussi des pierres de fondement, parce que l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est normatif pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Et par conséquent, les apôtres sont le fondement, les 12 apôtres sont le fondement sur lequel nous sommes, l'Église est établie, elle ne peut pas poser un autre fondement, et puis ensuite chacun s'établit sur ce rocher. Et parler de rocher, Jésus continue en disant, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Ça veut dire, Jésus fait allusion à cette tempête d'hiver dont je parlais tout à l'heure, qui, au temps de la fin, le royaume de Satan, le Sheol, le séjour des morts, déferlera comme ces tempêtes contre les rochers. Mais comme le rocher sera solidement établi, eh bien, il ne sera pas atteint. Il y a un autre point important aussi quand nous parlons de rochers, c'est le fait que dans le livre de l'Apocalypse, ces rochers sont des pierres précieuses. Des pierres précieuses énormes, évidemment, qui n'existent pas dans le monde dans cet état-là, mais qui sont évidemment symboliques. Et nous trouvons cela aussi en relation avec le pectoral du jugement. Vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que c'était que le pectoral du jugement ? C'était cette pièce d'étoffe que le grand prêtre portait sur sa poitrine et sur lequel étaient enchâssées 12 pierres précieuses, sur lesquelles il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. Et cet objet servait pour discerner la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, et il était appelé pectoral du jugement. Et nous retrouvons donc cette idée dans la parole de Jésus à ses 12 apôtres, qui seront ceux qui jugeront les 12 tribus d'Israël au temps de la fin, donc comme des pierres, et ils sont associés aux pierres précieuses dans le livre de l'Apocalypse. Et puis nous retrouvons cette image du rocher dans d'autres textes extrêmement nombreux de l'Écriture et qui sont associés avec la personne du Messie. Le Messie est le rocher, comme Dieu est le rocher d'ailleurs. Et il y a passage de l'un à l'autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu, plutôt la tradition juive, nous dit quel est le nom du Messie. Et le nom du Messie, eh bien, c'est Adonai, c'est le nom de Dieu. Dieu et le Messie ont le même nom dans une certaine tradition juive. Et ça, c'est très étonnant, parce que justement, il y a une assimilation qui est faite entre Dieu et son Messie, le Messie étant le lieutenant de Dieu, donc dans toute l'Écriture. Voilà pour ce qui concerne la typologie de la pierre, très rapidement. Et maintenant, je voudrais continuer avec Jacob, au moment où Jacob va revenir dans le pays d'Israël. Et là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, parce que nous trouvons Jacob qui est allé en exil. Et cet exil s'est mal terminé. Il a dû fuir précipitamment. Et cette fuite, eh bien, elle est marquée par le fait qu'il y a un pacte avec son beau-père, comme quoi il ne reviendra pas en arrière. Tout retour en arrière, toute fuite en arrière est impossible pour Jacob. Par conséquent, il est condamné à la fuite en avant, c'est-à-dire vers le pays d'Israël. Et quand il arrive aux frontières du pays d'Israël, il sait qu'il a eu des problèmes avec son frère Ésaü, et il envoie des messagers pour, en pensant que depuis tout ce grand nombre d'années qui s'est écoulé, la colère d'Ésaü s'est aussi apaisée. Et il envoie donc des messagers pour expliquer qu'il revient, etc., et que son frère l'accueille d'une manière favorable. Et les messagers reviennent en disant que Ésaü marche vers lui avec 400 hommes. Et Jacob panique. Et là, il comprend qu'il est dans une situation difficile, il est coincé des deux côtés. Il ne peut pas retourner en arrière à cause du pacte avec son beau-père, et aller en avant, c'est rencontrer Ésaü, et c'est le bain de sang. Alors, courageusement, il fait passer les femmes et les enfants d'abord, et lui reste derrière. Et là, il va se battre avec un homme. Avec un homme qui est tout à fait particulier. Il pense que c'est la nuit, donc il ne le voit pas, il ne voit pas son visage, il ne sait pas quel il est. Et il va donc être en relation avec ce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire un ange. Les anges, il les a déjà rencontrés. C'était quand il nous est dit que quand il arrive à proximité du pays d'Israël, il rencontre deux troupes d'anges. Ces anges sont les anges de Bethel, les anges qu'il avait vus sur l'échelle. Il y avait des anges qui montaient et il y avait des anges qui descendaient. Monter et descendre, ce sont deux termes techniques pour parler du pays d'Israël. Quand on se rend dans le pays d'Israël, quand on se rend à Jérusalem, on monte. Même si vous venez de l'Himalaya, même si vous venez du Mont Blanc, si vous allez à Jérusalem, 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous montez. C'est une montée spirituelle. On monte toujours à Jérusalem. Et puis, si vous quittez Jérusalem, pour aller n'importe où, vous descendez. Et quand Jacob est à Bethel et qu'il va quitter Bethel pour se rendre en Mésopotamie, il descend. Et il va y avoir des anges qui vont descendre avec lui. Et quand il va remonter, il va y avoir des anges qui vont remonter avec lui pour le ramener dans le pays d'Israël. Et quand il arrive dans un lieu qui s'appelle Mahanaïm, auquel il va donner le nom de Mahanaïm, c'est-à-dire deux camps, il rencontre ces deux troupes d'anges, des anges qui montent et des anges qui descendent. Ce sont les anges de Bethel, des anges qui l'ont accompagné dans son exil et des anges qui viennent à sa rencontre pour l'accueillir dans le pays d'Israël. Par conséquent, d'une certaine manière, Jacob est rassuré, il sait que les choses vont bien tourner, vont bien se terminer, même si pour le moment la situation semble complètement bloquée. Et c'est le fameux combat de Peniel, ce combat qui dure toute la nuit. Et quand il se réveille, quand le soleil se lève le matin et que Jacob voit le visage de son adversaire, alors il comprend qu'il a affaire à un ange. Et pas n'importe quel ange, un ange extrêmement puissant. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la personne de Dieu lui-même. Il est en train de se battre contre Dieu, et pire encore, il est en train de voir la face de Dieu. Et voir la face de Dieu, c'est mourir. Moïse lui-même n'avait pas eu la possibilité de voir la face de Dieu. Et Moïse s'était trouvé dans une situation où il avait simplement vu le Seigneur par derrière, mais il n'avait pas vu sa face. Et Jacob comprend qu'il est en danger de mort. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller parce que l'aube s'est levée maintenant. C'est à l'aube qu'il voit la réalité. Et Jacob comprend que là, c'est trop. Il dit, il y a une malédiction qui repose sur Jacob à cause de ce combat qu'il a mené contre cet homme. Se battre contre Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et il dit, change la malédiction en bénédiction. Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Et Jacob, il pourra dire, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Je ne suis pas mort de cette rencontre avec le Seigneur. Mais ça, c'est la grâce de Dieu uniquement. C'est la véritable bénédiction de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui se passera à peu près au même endroit, beaucoup plus tard, avec Balaam. Quand là aussi la malédiction sera changée en bénédiction, c'est à peu près au même endroit que cela s'est passé. Et c'est un retour de cette réalité à laquelle Jacob avait été confronté. Et donc Jacob traverse le Jourdain, il va rencontrer son frère. Et au lieu que cette rencontre se termine par une effusion de sang, il va y avoir réconciliation entre les deux frères. Les choses vont bien se terminer. Ça, c'est le récit biblique. Maintenant, l'interprétation des sages. Cette interprétation, elle est très intéressante. L'interprétation est la suivante. Jacob, c'est l'image d'Israël. Jacob était parti en exil à cause de ses manquements, de ses péchés. Et nous partons en exil, notre exil est le résultat de nos péchés. À cause des péchés, on dit ça dans la prière du matin, à cause des péchés que nous avons commis, nous avons été exilés loin de ton pays. Et donc Jacob arrive en Mésopotamie, et là tout va bien pour lui, tout prospère. Et les sages disent ceci, dans notre exil, nous allons aussi prospérer. Parmi les nations au sein desquelles nous nous trouverons, nous allons prospérer. Et c'est vrai, beaucoup de Juifs sont devenus riches, sont devenus importants dans les nations au sein desquelles ils se sont trouvés. Tellement, Jacob était tellement bien en Mésopotamie qu'il n'avait plus envie de rentrer. Et les sages ont dit la même chose. Au temps de la fin, quand le temps viendra pour nous de revenir dans notre pays, nous serons tellement bien installés chez les Goyim, chez les non-Juifs, que nous n'aurons plus du tout le désir de rentrer chez nous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être obligé d'envoyer une crise. Il a envoyé une crise entre Jacob et Laban pour que Jacob soit contraint, contre son gré, de revenir dans le pays d'Israël et revenir sans espoir de retour. De la même manière, au temps de la fin, et beaucoup de Juifs sont partis en Israël non pas par idéal, non pas par, par désir d'accomplir des prophéties, mais tout simplement contraints et forcés par les circonstances. On prospère chez les non-juifs, mais cette prospérité, du jour au lendemain, elle peut être remise en question. Et les juifs, donc, se trouvent dans cette situation-là. Et là, quand nous reviendrons dans notre pays au temps de la fin, eh bien, nos adversaires n'auront pas des armées. Nous constaterons que l'antisémitisme n'aura pas disparu. De la même manière que Jacob avait constaté que la colère de son frère était restée la même, de la même manière, au temps de la fin, nous constaterons que la colère de nos ennemis, la haine de nos ennemis, l'antisémitisme de nos ennemis est le même. Qui eût pu penser que 70 ans après la Shoah, on assiste aujourd'hui à une telle explosion d'antisémitisme ? Et pourtant, eh bien, nous sommes là, après 2000 ans d'exil, parce que là aussi, comme Dieu l'avait promis à Jacob, Dieu a envoyé ses anges pour nous garder de tout mal et de tout danger. Et donc, quand nous reviendrons dans notre pays, nous aurons affaire à l'hostilité des habitants du pays. Comme Jacob a eu affaire à l'hostilité d'Ésaü, nous aurons affaire à l'hostilité non seulement des habitants du pays, mais également des nations. Et ce sera un combat difficile, exactement comme celui qui a été le combat de Jacob avec l'ange. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme disent les sages, la colère d'Ésaü, c'était la colère de Dieu. En fait, Jacob avait un contentieux avec Dieu. Et à cause de cela, Ésaü lui en voulait. Et quand Jacob a réglé ses comptes avec Dieu, dans cette fameuse nuit de Péniel, eh bien, la colère d'Ésaü a disparu comme par enchantement. Et les sages disent ceci, il en est de même. Il en sera de même au temps de la fin. Au temps de la fin, nous aurons cette colère des nations qui sera en fait la colère de Dieu, parce que Dieu aura un contentieux avec nous. Et il faudra d'abord que nous réglions nos comptes avec Dieu pour que la colère des nations qui nous entourent, eh bien, soit désarmée. Et le contentieux avec Dieu concerne le Messie. L'ange en question n'est autre que le Messie, disent les sages. Le Messie qui on appelle l'ange de la face, celui qui voit la face de Dieu, celui qui est devant la face de Dieu. Et ce n'est que lorsque nous aurons reconnu le Messie que la bénédiction de Dieu nous sera rendue. Et cette bénédiction ne viendra que quand l'aurore se lèvera. Ce n'est que c'est quand l'aurore est venue que Jacob a pu se rendre compte que qui était ce personnage avec lequel il se trouvait. Et au temps de la fin, il en sera de même pour ce qui concerne le peuple d'Israël. Il y a dans ce texte des choses tout à fait prodigieuses par rapport à ce qui se passe de nos jours, parce que nous voyons ces choses-là s'accomplir point par point. Et ce qui est prodigieux, c'est de voir à quel point les sages d'Israël ont annoncé ce qu'ils sont en train de vivre sans se rendre compte de l'aveuglement qui était le leur et ne se rendre compte que ce personnage n'est autre que Jésus. Voilà, je voudrais maintenant... J'ai combien de temps encore, là ? 10 minutes encore ? Waouh ! Pour dire tout ce que je voulais. Dire deux mots sur... le Messie, deuxième Moïse. Dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, il est question d'un prophète que Dieu suscitera. Dieu vous suscitera un prophète comme moi, dit Moïse, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et ça, c'est un texte difficile à comprendre parce que il y a un autre texte à la fin du livre du Deutéronome qui concerne la mort de Moïse et qui nous dit ceci, « Il ne parut plus de prophète que Moïse ». Donc comment comprendre que, au temps de la fin, Dieu suscitera un prophète comme Moïse ? Et la réponse, c'est qu'entre Moïse et le prophète à venir, eh bien, il ne paraîtra plus de prophète comme cela. Et l'interprétation des sages est que ce prophète en question n'est autre que le Messie. Le Messie sera un prophète comme Moïse. Et il sera un second Moïse. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple de l'Égypte. Et qu'au temps de la fin, il agira de la même manière pour sauver son peuple de son exil. Il y aura un deuxième Exode, il y aura une deuxième Pâque, il y aura un deuxième Moïse, il y aura une deuxième Alliance. Bref, les choses vont être doublées. Et cet Exode sera tellement prodigieux, tellement plus prodigieux que le premier, nous dit le prophète Jérémie, qu'on en oubliera même le premier Exode. Et tous les prophètes ont prophétisé au sujet de ce deuxième Exode, ainsi qu'on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est bâtie tout entière sur ce thème du deuxième Exode. Cet Exode, donc, verra l'apparition d'un second Moïse qui sera le Messie. Et le Messie était un prophète, comme Moïse était un prophète. Et en quoi Moïse était-il un prophète ? En ce qu'il a donné la Torah. La Torah était un livre prophétique, et par conséquent, Moïse était un prophète. Or, dans le chapitre précédent du livre du Deutéronome, au chapitre 18, il est question d'un roi. Quand le roi s'assiera sur son trône, il écrira un exemplaire de cette Torah dans lequel il méditera jour et nuit. Mais on peut comprendre aussi d'une manière différente, on peut comprendre, il écrira une deuxième Torah. Et il y a un vieux commentaire qu'on a retrouvé à Qumran, mais qu'on connaissait déjà, qui dit ceci. Au temps de la fin, le Messie donnera une Torah, une deuxième Torah, une nouvelle Torah, et il la répandra aux nations. Et les nations recevront cette Torah avec joie et ils l'adopteront directement sans autre... parce que ce sera quelque chose qui sera doux et léger, un fardeau doux et léger sur leurs épaules. Mais cette Torah, le peuple d'Israël l'acceptera-t-elle ? Alors on ne répond pas à cette question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations recevront la Torah du Messie, il se pourrait que le peuple d'Israël ne le fasse pas. Par conséquent, on conclut que le Messie est à la fois roi et prophète. À la fois, il est question de lui dans le chapitre 17, où il est question de cette deuxième Torah, et puis ensuite dans le chapitre suivant, 18, où il est question de la venue du second Moïse, le prophète qui sera grand comme Moïse. Et il y a un texte dans le Midrash, c'est-à-dire le commentaire, qui dit ceci, que c'est tiré d'Ésaïe 52. « Voici, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » Et trois fois, il est dit dans le texte que le serviteur s'élèvera. Alors, on pose la question, pourquoi est-ce que trois fois, on éprouve le besoin de dire que le serviteur s'élèvera ? Alors, la réponse est celle-ci, parce qu'il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'Israël aura produit de mieux. Or, qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux ? La première chose, c'est Abraham. Donc, le Messie sera supérieur à Abraham. La deuxième chose, c'est Moïse. Donc, le Messie sera supérieur à Moïse. Et puis, la troisième chose, évidemment, il ne faut pas la chercher sur la terre. Il n'y a rien de plus grand que Abraham et Moïse au sein du peuple d'Israël. Il faut le chercher dans le ciel et parmi les anges. Par conséquent, le Messie sera supérieur aux anges. Et vous retrouvez là le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous explique que Jésus est supérieur aux anges, que Jésus est supérieur à Moïse et que Jésus est supérieur à Abraham. Ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce Midrash et qu'il nous le livre. Donc ici, le Messie s'élèvera, et c'est aussi en relation avec la pierre de Bethel dont on parlait tout à l'heure. Jacob fait lever la pierre, il l'érige en stèle, parce que justement il est écrit que le Messie s'élèvera. C'est dans Ésaïe 52, qui est interprété en principe par les Juifs comme ne s'appliquant pas au Messie, mais qui en réalité est quelque chose qui est en relation avec le Messie. Et donc le Messie donnera cette Torah aux nations. Et les nations donc la recevront avec joie jusqu'au moment où viendra le temps de la fin. Et au temps de la fin, eh bien, les nations qui auront reçu ce joug doux et léger, comme le dit Jésus d'ailleurs, dans une parole de l'Écriture, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon joug et mon fardeau est léger. Les nations rejetteront ce joug-là. Et c'est ce qui est écrit dans le psaume 2, Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi cette agitation parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son Messie? Brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. Et on pose la question, de quel lien et de quelle chaîne s'agit-il? Qu'est-ce que les nations chercheront à briser au temps de la fin? Eh bien, elles chercheront à briser cette Torah du Messie. Cette Torah qui n'est autre que l'Évangile. Ce que nous nous appelons l'Évangile, c'est la Torah du Messie. Et le Messie, donc, sera rejeté par les nations. Ce sera la grande apostasie, la grande révolte, qui commencera par une révolte spirituelle et qui se terminera par une révolte contre Israël, toutes les nations contre Jérusalem, qui monteront contre Jérusalem pour essayer de la détruire. Et les nations, donc, seront dispersées par le Seigneur, mais auparavant, il y aura cette grande épreuve pour ce qui concerne le peuple d'Israël. Et Dieu, donc, établira son roi sur Sion, sa montagne sainte, comme c'est écrit dans le psaume 2. Et après que les nations aient reçu donc la Torah du Messie jusqu'aux extrémités de la terre, selon qu'il est écrit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage », tu posséderas donc toutes les frontières des nations, et il y aura donc toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre qui auront entendu parler de cette Torah du Messie, alors les nations se révolteront contre cette Torah du Messie et le Seigneur les brisera comme un vase de potier avec un bâton de fer. Ce sera une autorité cette fois-ci contraignante. Au début, ce n'était pas une activité contraignante. Et on reprend aussi le texte de Zacharie sur l'âne du Messie qui rentre dans Jérusalem. Si dans sa première venue, le Messie viendra sur un âne, doux et humble de cœur. Dans sa deuxième venue, il viendra comme un guerrier pour rétablir son règne par une verge de fer avec laquelle il pètera les nations. Et la venue du Messie au dernier jour sera caractérisée par ce qu'on appelle la guerre de Gog, la guerre apocalyptique qui se déroulera au temps de la fin. Le Messie sera amené à intervenir d'une manière violente parce que les nations se seront opposées à Dieu et au peuple d'Israël, cherchant à le détruire d'une manière totale. Maintenant, il est très, très intéressant de noter que dans l'évangile de Matthieu, nous retrouvons cette idée-là. Matthieu est le plus juif de tous les évangiles, et il nous présente Jésus comme un second Moïse. On le voit déjà dans l'évangile, dans l'histoire de l'évangile de l'enfance, où Jésus échappe à Hérode comme Moïse a échappé au Pharaon. Par conséquent, c'est une assimilation avec Moïse. Et puis, Matthieu a groupé les paroles de Jésus en 5 grands discours. Ces paroles qui sont dispersées ailleurs dans les évangiles synoptiques sont regroupées dans l'évangile de Matthieu en 5 grands discours qui sont séparés par des récits de Jésus, de son histoire, etc. Et ces discours, évidemment, représentent les 5 livres de Moïse, les 5 livres de la Torah. Par conséquent, l'évangile, pour Matthieu, est une nouvelle Torah. Et cette nouvelle Torah, eh bien, elle doit être répandue jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations. C'est le sens de ce qui est dit dans le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit à ses disciples, donne la grande commission, comme le disent les anglo-saxons, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Cette parole nous est arrivée en grec, puisque le Nouveau Testament nous est parvenu en grec. Mais Jésus ne l'a pas prononcée en grec. Il l'a prononcée en hébreu. Et là, nous avons le mot Torah. Torah, on traduit ça par loi, en principe. Mais la Torah, la traduction n'est pas exacte, la traduction n'est pas juste. Torah, ça vient du mot latour, qui signifie viser un but. C'est-à-dire la parole de Dieu vise un but, comme c'est écrit dans Ésaïe 55. De la même manière que la pluie et la neige ne descendent pas sur la terre sans avoir fécondé la terre, donné de la semence à celui qui sème et permis au moissonneur de moissonner, de la même manière, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Et la Torah, donc, c'est l'enseignement. Et par conséquent, on peut retraduire cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu enseignez-leur à garder toute ma Torah. Donc c'est véritablement la Torah du Seigneur. Bon, j'aurais tellement encore de choses à vous dire, mais l'heure est passée. On va s'arrêter là. On n'a fait qu'effleurer le sujet, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça vous a donné un petit avant-goût de ce qu'on peut trouver comme richesse dans la parole de Dieu en ce qui concerne le Messie, la vision du Messie. J'aurais pu vous parler des noms du Messie dans la Bible. J'aurais pu vous parler dans les psaumes, etc. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
Voilà, si vous avez des questions.